Livre premier. La nuit moins noire que l'homme. Première partie, la pointe sud de Portland. Une bise opiniâtre du nord souffla sans discontinuer sur le continent européen, et plus rudement encore sur l'Angleterre, pendant tout le mois de décembre 1689 et tout le mois de janvier 1690. De là, le froid calamiteux qui a fait noter cet hiver comme mémorable aux pauvres, sur les marges de la vieille Bible de la chapelle presbytérienne des non-jurors de Londres. Grâce à la solidité utile de l'antique parchemin monarchique employé aux registres officiels, de longues listes d'indigents trouvés morts de famine et de nudité sont encore lisibles aujourd'hui dans beaucoup de répertoires locaux, particulièrement dans les pouillés de la Clink Liberty Court, du bourg de Southwark, de la Pea Powder Court, ce qui veut dire « cour des pieds poudreux », de la Whitechapel Court, tenue au village de Starnay par le bailli du seigneur. La Tamise prit, ce qui n'arrive pas une fois par siècle, la glace s'y formant difficilement à cause de la secousse de la mer. Les chariots roulèrent sur la rivière gelée. Il y eut sur la Tamise foire avec tentes et combats d'ours et de taureaux. On y rôtit un bœuf entier sur la glace. Cette épaisseur de glace dura 2 mois. La pénible année 1690 dépassa en rigueur même les hivers célèbres du commencement du XVIIe siècle, si minutieusement observés par le docteur Gédéon de Long, lequel a été honoré par la ville de Londres d'un buste avec pied-douche en qualité d'apothicaire du roi Jacques Ier. Un soir, vers la fin d'une des plus glaciales journées de ce mois de janvier 1690, il se passait dans une des nombreuses anses inhospitalières du golfe de Portland quelque chose d'inusité qui faisait crier et tournoyer à l'entrée de cette anse les mouettes et les oies de mer n'osant rentrer. Dans cette crique, la plus périlleuse de toutes les anses du golfe, quand règne de certains vents, et par conséquent la plus solitaire, commode à cause de son danger même au navire qui se cache, un petit bâtiment, accostant presque la falaise, grâce à l'eau profonde, était amarré à une pointe de roche. On a tort de dire « la nuit tombe ». On devrait dire « la nuit monte », car c'est de terre que vient l'obscurité. Il faisait déjà nuit au bas de la falaise. Il faisait encore jour en haut. Qui se fût approché du bâtiment amarré eût reconnu une ourque biscayenne. Le soleil, caché toute la journée par les brumes, venait de se coucher. On commençait à sentir cette angoisse profonde et noire qu'on pourrait nommer l'anxiété du soleil absent. Le vent ne venant pas de la mer, l'eau de la crique était calme. C'était, en hiver surtout, une exception heureuse. Ces criques de Portland sont presque toujours des havres de bar. La mer dans les gros temps s'y émeut considérablement, et il faut beaucoup d'adresse et de routine pour passer là en sûreté. Ces petits ports, plutôt apparents que réels, font un mauvais service. Il est redoutable d'y entrer et terrible d'en sortir. Ce soir-là, par extraordinaire, nul péril. L'ourque de Biscaye est un ancien gabarit tombé en désuétude. Cet ourque, qui a rendu des services, même à la marine militaire, était une coque robuste, barque par la dimension, navire par la solidité. elle figurait dans l'armada. L'ourque de guerre atteignait, il est vrai, de forts tonnages. Ainsi, la capitainesse Grand Griffon, montée par Lope de Médina, jaugeait 650 tonneaux et portait 40 canons. Mais l'ourque marchande et contrebandière était d'un très faible échantillon. Les gens de mer estimaient et considéraient ce gabarit chétif. Les cordages de l'ourque étaient formés de tourons de chanvre, quelques-uns avec une âme en fil de fer, ce qui indique une intention probable, quoique peu scientifique, d'obtenir des indications dans les cas de tension magnétique. La délicatesse de ce gréement n'excluait point les gros câbles de fatigue, les cabrias des galères espagnoles et les camélies des tirèmes romaines. La barre était très longue, ce qui a l'avantage d'un grand bras de levier, mais l'inconvénient d'un petit arc d'effort. Deux rouées dans deux clans au bout de la barre corrigeaient ce défaut et réparaient un peu cette perte de force. La boussole était bien logée dans un habitacle parfaitement carré et bien balancée par ses deux cadres de cuivre placés l'un dans l'autre horizontalement sur de petits boulons comme dans les lampes de cardan. Il y avait de la science et de la subtilité dans la construction de l'ourque, mais c'était de la science ignorante et de la subtilité barbare. L'ourque était primitive comme la prame et la pirogue. Participer de la prame par la stabilité et de la pirogue par la vitesse, et avait, comme toutes les embarcations nées de l'instinct pirate et pêcheur, de remarquables qualités de mer. Elle était propre aux eaux fermées et aux eaux ouvertes. Son jeu de voile, compliqué d'été et très particulier, lui permettait de naviguer petitement dans les baies closes des Asturies, qui sont presque des bassins, comme Pasage par exemple, et largement en pleine mer. Elle pouvait faire le tour d'un lac et le tour du monde. Singulières nefs à deux fins, bonnes pour les temps et bonnes pour la tempête. L'ourque était parmi les navires ce qu'est le hoche-queue parmi les oiseaux, un des plus petits et un des plus hardis. Le hoche-queue perché, fait à peine plier un roseau et, envolé, traverse l'océan. Les ourques de Biscaye, même les plus pauvres, étaient dorées et peintes. Ce tatouage est dans le génie de ces peuples charmants, un peu sauvages. Le sublime bariolage de leurs montagnes, quadrillées de neiges et de prairies, leur révèle le prestige âpre de l'ornement quand même. Ils sont indigents et magnifiques. Ils mettent des armoiries à leurs chaumières. Ils ont de grands ânes qu'ils chamarrent de grelots et de grands bœufs qu'ils coiffent de plumes. Leurs chariots, dont on entend à deux lieues grincer les roues, sont enluminés, ciselés et enrubanés. Un savetier a un bas-relief sur sa porte. C'est cinq crépins et une savate, mais c'est en pierre. Ils galonnent leurs vestes de cuir, ils ne recousent pas le haillon, mais ils le brodent. Gaieté profonde et superbe. Les Basques sont, comme les Grecs, des fils du soleil. Tandis que le Valencien se drape nu et triste dans sa couverture de laine rousse, trouée pour le passage de la tête, les gens de Galice et de Biscaye ont la joie des belles chemises de toile blanchies à la rosée. Leurs seuils et leurs fenêtres regorgent de faces blondes et fraîches, riant sous les guirlandes de maïs. Une sérénité joviale et fière éclate dans leurs arts naïfs, dans leurs industries, dans leurs coutumes, dans la toilette des filles, dans les chansons. La montagne, cette masure colossale, est en Biscaye toute lumineuse. Les rayons entrent et sortent par toutes ses brèches. Le farouche Jaizkibel est plein d'idylle. La Biscaye est la grâce pyrénéenne comme la Savoie est la grâce alpestre. Les redoutables baies qui avoisinent Saint-Sébastien, les eaux et Fontarabie, mêlent aux tourmentes, aux nuées, aux écumes par-dessus les caps, aux rages de la vague et du vent, l'horreur, au fracas des batelières couronnées de roses. Qui a vu le Pays basque veut le revoir. C'est la terre bénie. Deux récoltes par an, des villages gais et sonores, une pauvrette altière, tout le dimanche un bruit de guitare, danse, castagnette, amour, des maisons propres et claires, les cigognes dans les clochers. Revenons à Portland, âpre montagne de la mer. La presqu'île de Portland, vue en plan géométral, offre l'aspect d'une tête d'oiseau, dont le bec est tourné vers l'océan et l'occiput vers Weymouth, l'isthme et le cou. Portland, au grand dommage de sa sauvagerie, existe aujourd'hui pour l'industrie. Les côtes de Portland ont été découvertes par les carriers et les plâtriers vers le milieu du XVIIIe siècle. Depuis cette époque, avec la roche de Portland, on fait du ciment, dit romain, exploitation utile qui enrichit le pays et défigure la baie. Il y a 200 ans, ces côtes étaient ruinées comme une falaise. Aujourd'hui, elles sont ruinées comme une carrière. La pioche mord petitement et le flot grandement. De là, une diminution de beauté. Au gaspillage magnifique de l'océan a succédé la coupe réglée de l'homme. Cette coupe réglée a supprimé la crique où était amarrée l'ourque biscayenne. Pour retrouver quelques vestiges de ce petit mouillage démoli, il faudrait chercher sur la côte orientale de la presqu'île, vers la pointe, au-delà de Folly Pier et de Dirdle Pier, au-delà même de Wakeham, entre le lieu-dit Church Hop et le lieu-dit Southwell. La crique, murée de tous les côtés par des escarpements plus hauts qu'elle n'était large, était de minute en minute plus envahie par le soir. La brume trouble, propre au crépuscule, s'y épaississait. C'était comme une crue d'obscurité au fond d'un puits. La sortie de la crique sur la mer, couloir étroit, dessinait dans cet intérieur presque nocturne où le flot remuait, une fissure blanchâtre. Il fallait être tout près pour apercevoir l'ourque amarré au rocher et comme caché dans leur grand manteau d'ombre. Une planche jetée du bord à une saillie basse et plate de la falaise, unique point où l'on put prendre pied, mettait la barque en communication avec la terre. Des formes noires marchaient et se croisaient sur ce pont branlant, et dans ces ténèbres, des gens s'embarquaient. Il faisait moins froid dans la crique qu'en mer, grâce à l'écran de roche dressé au nord de ce bassin, diminution qui n'empêchait pas ces gens de grelotter. Ils se hâtaient. Les effets de crépuscule découpent les formes à l'emporte-pièce. De certaines dentelures à leurs habits étaient visibles et montraient que ces gens appartenaient à la classe nommée en Angleterre « the waggard », c'est-à-dire les déguenillés. On distinguait vaguement dans les reliefs de la falaise la torsion d'un sentier. Une fille, qui laisse pendre et traîner son lacet sur un dossier de fauteuil, dessine, sans s'en douter, à peu près tous les sentiers de falaise et de montagne. Le sentier de cette crique, plein de nœuds et de coudes, presque à pic, est meilleur pour les chèvres que pour les hommes, aboutissait à la plateforme où était la planche. Les sentiers de falaise sont habituellement d'une déclivité peu tentante. Ils s'offrent moins comme une route que comme une chute. Ils croulent plutôt qu'ils ne descendent. Celui-ci, ramification vraisemblable de quelque chemin dans la plaine, était désagréable à regarder tant il était vertical. On le voyait d'en bas gagner en zigzag les assises hautes de la falaise, d'où il débouchait à travers des effondrements sur le plateau supérieur par une entaille au rocher. C'est par ce sentier qu'avaient dû venir les passagers que cette barque attendait dans cette crique. Autour du mouvement d'embarquement qui se faisait dans la crique, mouvement visiblement effaré et inquiet. Tout était solitaire. On n'entendait ni un pas, ni un bruit, ni un souffle. À peine apercevait-on, de l'autre côté de la rade, à l'entrée de la baie de Wingstead, une flottille, évidemment fourvoyée, de bateaux pêcher le requin. Ces bateaux polaires avaient été chassés des eaux danoises dans les eaux anglaises par les bizarreries de la mer. Les bises boréales jouent de ces tours aux pêcheurs. Ceux-ci venaient de se réfugier au mouillage de Portland, signe de mauvais temps présumable et de péril au large. Ils étaient occupés à jeter l'ancre. La maîtresse barque, placée en vedette selon l'ancien usage des flottilles norvégiennes, dessinait en noir tout son gréement sur la blancheur plate de la mer, et l'on voyait à l'avant la fourche de pêche portant toutes les variétés de crocs et de harpons dessinées au Semus glacialis, au Squalus acanthias et au Squalus pinax niger, et le filet à prendre la grande sélache. À ces quelques embarcations près, toutes balayées dans le même coin, l'œil, en ce vaste horizon de Portland, ne rencontrait rien de vivant. Pas une maison, pas un navire. La côte, à cette époque, n'était pas habitée, et la rade, en cette saison, n'était pas habitable. Quel que fût l'aspect du temps, les êtres qu'allait emmener l'ourque biscayenne n'empressaient pas moins le départ. Ils faisaient au bord de la mer une sorte de groupe affairé et confus aux allures rapides. Les distinguer l'un de l'autre était difficile. Impossible de voir s'ils étaient vieux ou jeunes. Le soir indistinct les mêlait et les estompait. L'ombre, ce masque, était sur leur visage. C'étaient des silhouettes dans de la nuit. Ils étaient 8. Il y avait probablement parmi eux une ou deux femmes, malaisées à reconnaître sous les déchirures et les loques dont tout le groupe était affublé, accoutrement qui n'étaient plus ni des vêtements de femmes ni des vêtements d'hommes. Les haillons n'ont pas de sexe. Une ombre plus petite, allant et venant parmi les grandes, indiquait un nain ou un enfant. C'était un enfant. Chapitre 2. En observant de près, voici ce qu'on eût pu noter. Tous portaient de longues capes, percées et rapiécées, mais drapées et au besoin les cachant jusqu'aux yeux, bonnes contre la bise et la curiosité. Sous ces capes, ils se mouvaient agilement. La plupart étaient coiffés d'un mouchoir roulé autour de la tête, sorte de rudiment par lequel le turban commence en Espagne. Cette coiffure n'avait rien d'insolite en Angleterre. Le midi, à cette époque, était à la mode dans le Nord. Peut-être cela tenait-il à ce que le Nord battait le midi. Il en triomphait et l'admirait. Après la défaite de l'Armada, le Castillan fut chez Élisabeth un élégant baragouin de cour. Parler anglais chez la reine d'Angleterre était presque « shocking ». Subir un peu les mœurs de ceux à qui l'on fait la loi, c'est l'habitude du vainqueur barbare vis-à-vis le vaincu raffiné. Le tartare contemple et imite le chinois. C'est pourquoi les modes castillanes pénétraient en Angleterre. En revanche, les intérêts anglais s'infiltraient en Espagne. Un des hommes du groupe qui s'embarquait avait un air de chef. Il était chaussé d'alpargates et attifé de guenilles passementées et dorées, et d'un gilet de paillon luisant sous sa cape comme un ventre de poisson. Un autre rabattait sur son visage un vaste feutre taillé en sombrero. Ce feutre n'avait pas de trou pour la pipe, ce qui indiquait un homme lettré. L'enfant, par-dessus ses loques, était affublé, selon le principe qu'une veste d'homme est un manteau d'enfant, d'une souquenille de gabier qui lui descendait jusqu'aux genoux. Sa taille laissait deviner un garçon de 10 à 11 ans. Il était pieds nus. L'équipage de l'ourque se composait d'un patron et de 2 matelots. L'ourque, vraisemblablement, venait d'Espagne et y retournait. Elle faisait sans nul doute, d'une côte à l'autre, un service furtif. Les personnes qu'elle était en train d'embarquer chuchotaient entre elles. Le chuchotement que ces êtres échangeaient était composite. Tantôt un mot castillan, tantôt un mot allemand, tantôt un mot français. Parfois du gallois, parfois du basque. C'était un patois, à moins que ce ne fût un argot. Ils paraissaient être de toutes les nations et de la même bande. L'équipage était probablement des leurs. Il y avait de la connivence dans cet embarquement. Cette troupe bariolée semblait être une compagnie de camarades, peut-être un tas de complices. Et s'il y eut un peu plus de jours, et si l'on eût regardé un peu curieusement, on eût aperçu sur ces gens des chapelets et des scapulaires dissimulés à demi sous les guenilles. Un des à peu près de femmes, mêlés au groupe, avait un rosaire, presque pareil pour la grosseur des grains, à un rosaire de derviche, et facile à reconnaître pour un rosaire irlandais de l'Onim de Fwy, qu'on appelle aussi l'Onan de Fwy. On eût également pu remarquer, s'il y avait eu moins d'obscurité, une Nuestra Señora, avec le Niño sculpté et doré à l'avant de l'ourque. C'était probablement la Notre-Dame basque, sorte de Panagia des vieux Cantabres. Sous cette figure, tenait lieu de poupée de proue, il y avait une cage à feu. Point allumée en ce moment, excès de précaution qui indiquait un extrême souci de se cacher. Cette cage à feu était évidemment à 2 fins. Quand on l'allumait, elle brûlait pour la Vierge et éclairait la mer, fanal faisant fonction de cierge. Le taille-mer, long, courbe et aigu sous le beau pré, sortait de l'avant comme une corne de croissant. À la naissance du taille-mer, au pied de la Vierge, était agenouillé un ange, adossé à l'étrave, aile ployée, et regardant l'horizon avec une lunette. L'ange était doré, comme la Notre-Dame. Il y avait dans le taille-mer des jours et des claires-voies pour laisser passer les lames, occasion de dorures et d'arabesques. Sous la Notre-Dame était écrit en majuscule dorée le mot « Matutina », nom du navire, illisible en ce moment à cause de l'obscurité. Au pied de la falaise était déposé, en désordre dans le pêle-mêle du départ, le chargement que ces voyageurs emportaient et qui, grâce à la planche servant de pont, passait rapidement du rivage dans la barque. Des sacs de biscuits, une caque de scotchfish, une boîte de portative soap, 3 barils, un d'eau douce, un de malt, un de goudron, 4 ou 5 bouteilles d'al, un vieux porte-manteau bouclé dans des courroies, des malles, des coffres, une balle d'étoupe pour torches et signaux. Tel était ce chargement. Ces déguenillés avaient des valises, ce qui semblait indiquer une existence nomade. Les gueux ambulants sont forcés de posséder quelque chose. Ils voudraient bien parfois s'envoler comme des oiseaux, mais ils ne peuvent à moins d'abandonner leur gagne-pain. Ils ont nécessairement des caisses d'outils et des instruments de travail, quelle que soit leur profession errante. Ceux-ci traînaient ce bagage, embarras, dans plus d'une occasion. Il n'avait pas dû être aisé d'apporter ce déménagement au bas de cette falaise. Ceci, du reste, révélait une intention de départ définitive. On ne perdait pas le temps. C'était un passage continuel du rivage à la barque et de la barque au rivage. Chacun prenait sa part de la besogne. L'un portait un sac, l'autre un coffre. Les femmes, possibles ou probables dans cette promiscuité, travaillaient comme les autres. On surchargeait l'enfant. Et si cet enfant avait dans ce groupe son père et sa mère, cela est douteux. Aucun signe de vie ne lui était donné. On le faisait travailler, rien de plus. Il paraissait non un enfant dans une famille, mais un esclave dans une tribu. Il servait tout le monde et personne ne lui parlait. Du reste, il se dépêchait. Et comme toute cette troupe obscure dont il faisait partie, il semblait n'avoir qu'une pensée, s'embarquer bien vite. Savait-il pourquoi? Probablement non. Il se hâtait machinalement, parce qu'il voyait les autres se hâter. L'ourque était pontée. L'arrimage du chargement dans la cale fut promptement exécuté. Le moment de prendre le large arriva. La dernière caisse avait été portée sur le pont. Il n'y avait plus à embarquer que les hommes. Les deux de cette troupe, qui semblaient les femmes, étaient déjà à bord. Six, dont l'enfant, étaient encore sur la plateforme basse de la falaise. Le mouvement de départ se fit dans le navire. Le patron saisit la barre. Un matelot prit une hache pour trancher la câble d'amarre. Trancher, signe de hâte. Quand on a le temps, on dénoue. « Andamos !» dit à demi-voix celui des six qui paraissait le chef et qui avait des paillettes sur ses guenilles. L'enfant se précipita vers la planche pour passer le premier. Comme il y mettait le pied, deux des hommes, se ruant au risque de le jeter à l'eau, entrèrent avant lui. Un troisième l'écarta du coude et passa. Le quatrième le repoussa du poing et suivit le troisième. Le cinquième, qui était le chef, bondit plutôt qu'il n'entra dans la barque. Et, en y sautant, poussa du talon la planche qui tomba à la mer. Un coup de hache coupa la mare, la barre du gouvernail vira, le navire quitta le rivage, et l'enfant resta à terre. Chapitre 3. Solitude. L'enfant demeura immobile sur le rocher, l'œil fixe. Il n'appela point, il ne réclama point. C'était inattendu pourtant. Il ne dit pas une parole. Il y avait dans le navire le même silence. Pas un cri de l'enfant vers ses hommes, pas un adieu de ses hommes à l'enfant. Il y avait des deux parts une acceptation muette de l'intervalle grandissant. C'était comme une séparation de manne au bord d'un Styx. L'enfant, comme clou sur la roche que la marée haute commençait à baigner, regarda la barque s'éloigner. On eût dit qu'il comprenait. Quoi? Que comprenait-il? L'ombre. Un moment après, l'ourque atteignit le détroit de sortie de la crique et s'y engagea. On aperçut la pointe du mât sur le ciel clair, au-dessus des blocs fendus entre lesquels serpentait le détroit, comme entre deux murailles. Cette pointe erra au haut des roches et sembla s'y enfoncer. On ne la vit plus. C'était fini. La barque avait pris la mer. L'enfant regarda cet évanouissement. Il était étonné, mais rêveur. Sa stupéfaction se compliquait d'une sombre constatation de la vie. Il semblait qu'il y eût de l'expérience dans cet être commençant. Peut-être jugeait-il déjà. L'épreuve, arrivée trop tôt, construit parfois au fond de la réflexion obscure des enfants, on ne sait quelle balance redoutable où ces pauvres petites âmes pèsent Dieu. Se sentant innocent, il consentait. Pas une plainte. L'irréprochable ne reproche pas. Cette brusque élimination qu'on faisait de lui ne lui arracha pas même un geste. Il eut une sorte de refroidissement intérieur. Sous cette subite voie de fait du sort qui semblait mettre le dénouement de son existence presque avant le début, l'enfant ne fléchit pas. Il reçut ce coup de foudre debout. Il était évident, pour qui eût vu son étonnement sans accablement, que dans ce groupe qu'il abandonnait, rien ne l'aimait, et il n'aimait rien. Pensif, il oubliait le froid. Tout à coup, l'eau lui mouilla les pieds, la marée montait. Une haleine lui passa dans les cheveux. La bise s'élevait. Il frissonna. Il eut de la tête aux pieds ce tremblement qui est le réveil. Il jeta les yeux autour de lui. Il était seul. Il n'y avait pas eu pour lui, jusqu'à ce jour sur la terre, d'autres hommes que ceux qui étaient en ce moment dans l'ourk. Ces hommes venaient de se dérober. Ajoutons, chose étrange à énoncer, que ces hommes, les seuls qu'il connut, lui étaient inconnus. Il n'eût pu dire qui étaient ces hommes. Son enfance s'était passée parmi eux, sans qu'il eût la conscience d'être des leurs. Il leur était juxtaposé, rien de plus. Il venait d'être oublié par eux. Il n'avait pas d'argent sur lui, pas de souliers aux pieds, à peine un vêtement sur le corps, pas même un morceau de pain dans sa poche. C'était l'hiver, c'était le soir. Il fallait marcher plusieurs lieues avant d'atteindre une habitation humaine. Il ignorait où il était. Il ne savait rien, sinon que ceux qui étaient venus avec lui au bord de cette mer s'en étaient allés sans lui. Il se sentit mis hors de la vie. Il sentait l'homme manquer sous lui. Il avait 10 ans. L'enfant était dans un désert, entre des profondeurs où il voyait monter la nuit et des profondeurs où il entendait gronder les vagues. Il étira ses petits bras maigres et bâilla. Puis, brusquement, comme quelqu'un qui prend son parti, hardi et se dégourdissant, et avec une agilité d'écureuil, de clown peut-être, il tourna le dos à la crique et se mit à monter le long de la falaise. Il escalada le sentier, le quitta et revint, alerte et se risquant. Il se hâtait maintenant vers la terre. On eût dit qu'il avait un itinéraire. Il n'allait nulle part pourtant. Il se hâtait sans but, espèce de fugitif devant la destinée. Gravir est de l'homme, grimper est de la bête. Il gravissait et grimpait. Les escarpements de Portland étaient tournés au sud. Il n'y avait presque pas de neige dans le sentier. L'intensité du froid avait d'ailleurs fait de cette neige une poussière assez incommode aux marcheurs. L'enfant s'en tirait. Sa veste d'homme, trop large, était une complication et le gênait. De temps en temps, il rencontrait sur un surplomb ou dans une déclivité un peu de glace qui le faisait tomber. Il se raccrochait à une branche sèche ou à une saillie de pierre, après avoir pendu quelques instants sur le précipice. Une fois, il eut affaire à une veine de brèche qui s'écroula brusquement sous lui, l'entraînant dans sa démolition. Ces effondrements de la brèche sont perfides. L'enfant eut durant quelques secondes le glissement d'une tuile sur un toit. Il dégringola jusqu'à l'extrême bord de la chute. Une touffe d'herbe empoignée à propos le sauva. Il ne cria pas plus devant l'abîme qu'il n'avait crié devant les hommes. Il s'affermit et remonta, silencieux. L'escarpement était haut. Il eut ainsi quelques péripéties. Le précipice s'aggravait de l'obscurité. Cette roche verticale n'avait pas de fin. Elle reculait devant l'enfant dans la profondeur d'en haut. À mesure que l'enfant montait, le sommet semblait monter. Tout en grimpant, il considérait cet entablement noir posé comme un barrage entre le ciel et lui. Enfin, il arriva. Il sauta sur le plateau. On pourrait presque dire « il prit terre » car il sortait du précipice. À peine fut-il hors de l'escarpement qu'il grelotta. Il sentit sur son visage la bise, cette morsure de la nuit. L'aigre vent du nord-ouest souffla. Il serra contre sa poitrine sa serpillière de matelot. C'était un bon vêtement. Cela s'appelle, en langage du bord, un surroi, parce que cette sorte de vareuse-là est peu pénétrable aux pluies du sud-ouest. L'enfant, parvenu sur le plateau, s'arrêta, posa fermement ses 2 pieds nus sur le sol gelé et regarda. Derrière lui, la mer. Devant lui, la terre. Au-dessus de sa tête, le ciel. Mais un ciel sans astres. Une bruine opaque masquait le zénith. En arrivant au haut du mur de rocher, il se trouvait tourné du côté de la terre. Il la considéra. Elle était devant lui à perte de vue. Plate, glacée, couverte de neige. Quelques touffes de bruyère frissonnaient. On ne voyait pas de route. Rien. Pas même une cabane de berger. On apercevait ça et là des tournoiements de spirales blêmes qui étaient des tourbillons de neige fine arrachés de terre par le vent et s'envolant. Une succession d'ondulations de terrain, devenues tout de suite brumeuses, se plissaient dans l'horizon. Les grandes plaines ternes se perdaient sous le brouillard blanc. Silence profond. Cela s'élargissait comme l'infini et se taisait comme la tombe. L'enfant se retourna vers la mer. La mer, comme la terre, était blanche. L'une de neige, l'autre d'écume. Rien de mélancolique comme le jour que faisait cette double blancheur. Certains éclairages de la nuit ont des duretés très nettes. La mer était de l'acier. Les falaises étaient de l'ébène. De la hauteur où était l'enfant, la baie de Portland apparaissait presque en carte géographique, blafarde dans son demi-cercle de collines. Il y avait du rêve dans ce paysage nocturne. Une rondeur pâle, engagée dans un croissant obscur, la lune offre quelquefois cet aspect. D'un cap à l'autre, dans toute cette côte, on n'apercevait pas un seul scintillement indiquant un foyer allumé, une fenêtre éclairée, une maison vivante. Absence de lumière sur la terre, comme au ciel. Pas une lampe en bas, pas un astre en haut. Les larges aplanissements des flots dans le golfe avaient çà et là des soulèvements subis. Le vent dérangeait et fronçait cette nappe. L'ourc était encore visible dans la baie, fuyant. C'était un triangle noir qui glissait sur cette lividité. Au loin, confusément, les étendues d'eau remuaient dans le clair-obscur sinistre de l'immensité. La matutina filait vite. Elle décroissait de minute en minute. Rien de rapide comme la fonte d'un navire dans les lointains de la mer. À un certain moment, elle alluma son fanal de proue. Il est probable que l'obscurité se faisait inquiétante autour d'elle et que le pilote sentait le besoin d'éclairer la vague. Ce point lumineux, scintillation aperçue de loin, adhérait lugubrement sa haute et longue forme noire. On eût dit un linceul debout et en marche au milieu de la mer, sous lequel rôderait quelqu'un qui aurait à la main une étoile. Il y avait dans l'air une imminence d'orage. L'enfant ne s'en rendait pas compte, mais un marin eût tremblé. C'était cette minute d'anxiété préalable où il semble que les éléments vont devenir des personnes et qu'on va assister à la transfiguration mystérieuse du vent en aquilon. La mer va être océan, les forces vont se révéler volonté. Ce qu'on prend pour une chose est une âme. On va le voir. De là, l'horreur. L'âme de l'homme redoute cette confrontation avec l'âme de la nature. Un chaos allait faire son entrée. Le vent, froissant le brouillard et échafaudant les nuées derrière, posait le décor de ce drame terrible de la vague et de l'hiver qu'on appelle une tempête de neige. Le symptôme des navires rentrant se manifestait. Depuis quelques moments, la rade n'était plus déserte. À chaque instant, surgissaient de derrière les caps des barques inquiètes se hâtant vers le mouillage. Les unes doublaient le Portland Bill, les autres le Saint-Alban Head. Du plus extrême lointain, des voiles venaient. c'était à qui se réfugierait. Au sud, l'obscurité s'épaississait et les nuages pleins de nuit se rapprochaient de la mer. La pesanteur de la tempête en surplomb et pendante apaisait lugubrement le flot. Ce n'était point le moment de partir. L'ourque était partie cependant. Elle avait mis le cap au sud. Elle était déjà hors du golfe et en haute mer. Tout à coup, la bise souffla en rafale. La Matutina, qu'on distinguait encore très nettement, se couvrit de toile, comme résolue à profiter de l'ouragan. C'était le Norrois, qu'on nommait jadis vent de galerne, bise sournoise et colère. Le Norrois eut tout de suite sur l'ourque un commencement d'acharnement. L'ourque, prise de côté, pencha, mais n'hésita pas et continua sa course vers le large. Ceci indiquait une fuite plutôt qu'un voyage. Moins de crainte de la mer que de la terre, et plus de souci de la poursuite des hommes que de la poursuite des vents. L'ourque, passant par tous les degrés de l'amoindrissement, s'enfonça dans l'horizon. La petite étoile qu'elle traînait dans l'ombre pâlit. L'ourque, de plus en plus amalgamée à la nuit, disparut. Cette fois, c'était pour jamais. Du moins, l'enfant parut le comprendre. Il cessa de regarder la mer. Ses yeux se reportèrent sur les plaines, les landes, les collines, vers les espaces où il n'était pas impossible, peut-être, de faire une rencontre vivante. Il se mit en marche dans cet inconnu. Chapitre 4. Question. Qu'était-ce que cette espèce de bande en fuite laissant derrière elle cet enfant? Ces évadés, étaient-ils des comprachicos? On a vu plus haut le détail des mesures prises par Guillaume III et votées en Parlement contre les malfaiteurs, hommes et femmes, dits comprachicos, dits comprapequeños, dits chelas. Il y a des législations dispersantes. Ce statut, tombant sur les comprachicos, détermina une fuite générale, non seulement des comprachicos, mais des vagabonds de toutes sortes. Ce fut à qui se déroberait et s'embarquerait. La plupart des comprachicos retournèrent en Espagne. Beaucoup, nous l'avons dit, étaient basques. Cette loi protectrice de l'enfance eut un premier résultat bizarre. Un subit délaissement d'enfants. Ce statut pénal produisit immédiatement une foule d'enfants trouvés, c'est-à-dire perdus. Rien de plus aisé à comprendre. Toute troupe nomade contenant un enfant était suspecte. Le seul fait de la présence de l'enfant la dénonçait. Ce sont probablement des comprachicos. Telle était la première idée du shérif, du prévôt, du constable. De là, des arrestations et des recherches. Des gens simplement misérables, réduits à rôder et mendier, étaient pris de la terreur de passer pour comprachicos, bien que ne l'étant pas. Mais les faibles sont peu rassurés sur les erreurs possibles de la justice. D'ailleurs, les familles vagabondes sont habituellement effarées. Ce qu'on reprochait aux comprachicos, c'était l'exploitation des enfants d'autrui. Mais les promiscuités de la détresse et de l'indigence sont telles qu'il eût été parfois malaisé à un père et à une mère de constater que leur enfant était leur enfant. D'où tenez-vous cet enfant? Comment prouver qu'on le tient de Dieu? L'enfant devenait un danger. On s'en défaisait. Fuir seul sera plus facile. Le père et la mère se décidaient à le perdre, tantôt dans un bois, tantôt sur une grève, tantôt dans un puits. On trouva dans les citernes des enfants noyés. Ajoutons que les comprachicos étaient, à l'imitation de l'Angleterre, traqués désormais par toute l'Europe. Le branle de les poursuivre était donné. Rien n'est tel qu'un grelot attaché. il y avait désormais émulation de toutes les polices pour les saisir, et l'alguazil n'était pas moins au guet que le constable. On pouvait lire encore, il y a 23 ans, sur une pierre de la porte d'Otero, une inscription intraduisible: le code dans les mots brave l'honnêteté. Où est du reste marquée par une forte différence pénale la nuance entre les marchands d'enfants et les voleurs d'enfants. Voici l'inscription, en castillan un peu sauvage: Aqui quedan los orejas de los comprachicos y las bolsas de los robaninos mientras que se van ellos al trabajo de mar. On le voit, les oreilles, etc., confisquées, n'empêchaient point les galères. De là, un sauve-qui-peut parmi les vagabonds. Ils partaient effrayés. Ils arrivaient tremblants. Sur tout le littoral d'Europe, on surveillait les arrivages furtifs. Pour une bande, s'embarquer avec un enfant était impossible, car débarquer avec un enfant était périlleux. Perdre l'enfant, c'était plutôt fait. Par qui l'enfant qu'on vient d'entrevoir dans la pénombre des solitudes de Portland était-il rejeté? Selon toute apparence, par des comprachicos. Chapitre 5. L'arbre d'invention humaine. Il pouvait être environ 7 heures du soir. Le vent maintenant diminuait, signe de recrudescence prochaine. L'enfant se trouvait sur l'extrême plateau sud de la pointe de Portland. Portland est une presqu'île, mais l'enfant ignorait ce que c'est qu'une presqu'île et ne savait pas même ce mot, Portland. Il ne savait qu'une chose, c'est qu'on peut marcher jusqu'à ce qu'on tombe. Une notion est un guide. Il n'avait pas de notion. On l'avait amené là et laissé là. Et là, ces deux énigmes représentaient toute sa destinée. On était le genre humain, là était l'univers. Il n'avait ici-bas absolument pas d'autre point d'appui que la petite quantité de terre où il posait le talon, terre dure et froide à la nudité de ses pieds. Dans ce grand monde crépusculaire ouvert de toutes parts, qui avait-il pour cet enfant ? Rien. Il marchait vers ce rien. L'immense abandon des hommes était autour de lui. Il traversa diagonalement le premier plateau, puis un second, puis un troisième. À l'extrémité de chaque plateau, l'enfant trouvait une cassure de terrain. La pente était quelquefois abrupte, mais toujours courte. Les hautes plaines nues de la pointe de Portland ressemblent à de grandes dalles à demi engagées les unes sous les autres. Le côté sud semble entrer sous la plaine précédente et le côté nord se relève sur la suivante. Cela fait des ressauts que l'enfant franchissait agilement. De temps en temps, il suspendait sa marche et semblait tenir conseil avec lui-même. La nuit devenait très obscure. Son rayon visuel se raccourcissait. Il ne voyait plus qu'à quelques pas. Tout à coup, il s'arrêta, écouta un instant, fit un imperceptible hochement de tête satisfait, tourna vivement et se dirigea vers une éminence de hauteur médiocre qu'il apercevait confusément à sa droite, au point de la plaine le plus rapproché de la falaise. Il y avait sur cette éminence une configuration qui semblait, dans la brume, un arbre. L'enfant venait d'entendre de ce côté un bruit qui n'était ni le bruit du vent, ni le bruit de la mer. Ce n'était pas non plus un cri d'animaux. Il pensa qu'il y avait là quelqu'un. En quelques enjambées, il fut au bas du monticule. Il y avait quelqu'un, en effet. Ce qui était indistinct au sommet de l'éminence était maintenant visible. C'était quelque chose comme un grand bras sortant de terre tout droit. À l'extrémité supérieure de ce bras, une sorte d'index, soutenu en dessous par le pouce, s'allongeait horizontalement. Ce bras ce pouce et cet index dessinaient sur le ciel une équerre. Au point de jonction de cette espèce d'index et de cette espèce de pouce, il y avait un fil auquel pendait on ne sait quoi de noir et d'informe. Ce fil, remué par le vent, faisait le bruit d'une chaîne. C'était ce bruit que l'enfant avait entendu. Le fil était, vu de près, ce que son bruit annonçait, une chaîne. Chaîne marine aux anneaux à demi pleins. Par cette mystérieuse loi d'amalgame qui dans la nature entière superpose les apparences aux réalités, le lieu, l'heure, la brume, la mer tragique, les lointains tumultes visionnaires de l'horizon, s'ajoutaient à cette silhouette et la faisaient énorme. La masse liée à la chaîne offrait la ressemblance d'une gaine. Elle était emmaillotée comme un enfant et longue comme un homme. Il y avait en haut une rondeur autour de laquelle l'extrémité de la chaîne s'enroulait. La gaine se déchiquetait à sa partie inférieure. Des décharnements sortaient de ses déchirures. Une brise faible agitait la chaîne et ce qui pendait à la chaîne vacillait doucement. Cette masse passive obéissait aux mouvements diffus des étendues. Elle avait on ne sait quoi de panique. L'horreur qui disproportionne les objets lui ôtait presque la dimension en lui laissant le contour. C'était une condensation de noirceur ayant un aspect. Il y avait de la nuit dessus et de la nuit dedans. Cela était en proie au grandissement sépulcral. Les crépuscules, les levées de lune, les descentes de constellations derrière les falaises, les flottaisons de l'espace, les nuages, toute la rose des vents avaient fini par rentrer dans la composition de ce néant visible, cette espèce de bloc quelconque, suspendu dans le vent, participait de l'impersonnalité éparse au loin sur la mer et dans le ciel. Et les ténèbres achevaient cette chose qui avait été un homme. C'était ce qui n'est plus. Être un reste, ceci échappe à la langue humaine. Ne plus exister et persister, être dans le gouffre et dehors, reparaître au-dessus de la mort comme un submersible. Il y a une certaine quantité d'impossible mêlé à de telles réalités, de l'indicible. Cet être, était-ce un être ? Ce témoin noir était un reste, et un reste terrible. Reste de quoi ? De la nature d'abord, de la société ensuite. Zéro et total. L'inclémence absolue l'avait à sa discrétion. Les profonds oublis de la solitude l'environnaient. Il était livré aux aventures de l'ignoré. Il était sans défense contre l'obscurité, qui en faisait ce qu'elle voulait. Il était à jamais le patient. Il subissait. Les ouragans étaient sur lui. Lugubre fonction des souffles. Ce spectre était là au pillage. Il endurait cette voix de fait horrible, la pourriture en plein vent. Il était hors la loi du cercueil. Il avait l'anéantissement sans la paix. Il tombait en cendres l'été et en boue l'hiver. La mort doit avoir un voile. La tombe doit avoir une pudeur. Ici, ni pudeur ni voile. La putréfaction cynique et en aveu. Il y a de l'effronterie à la mort à montrer son ouvrage. Elle fait insulte à toutes les sérénités de l'ombre quand elle travaille hors de son laboratoire, le tombeau. Cet être expiré était dépouillé. Dépouiller une dépouille, inexorable achèvement. Sa moelle n'était plus dans ses os. Ses entrailles n'étaient plus dans son ventre. Sa voix n'était plus dans son gosier. Un cadavre est une poche que la mort retourne et vide. S'il avait eu un moi, où ce moi était-il? Là encore, peut-être. Et c'était poignant à penser. Quelque chose d'errant autour de quelque chose d'enchaîné. Peut-on se figurer dans l'obscurité un linéament plus funèbre? Il existe des réalités ici-bas qui sont comme des issues sur l'inconnu, par où la sortie de la pensée semble possible et où l'hypothèse se précipite. La conjecture a son compel intrare. Si l'on passe en certains lieux et devant certains objets, on ne peut faire autrement que de s'arrêter en proie au songe et de laisser son esprit s'avancer là-dedans. Il y a dans l'invisible d'obscures portes entrebâillées. Nul n'eût pu rencontrer ce trépassé sans méditer. La vaste dispersion l'usait silencieusement. Il avait eu du sang qu'on avait bu, de la peau qu'on avait mangée, de la chair qu'on avait volée. Rien n'avait passé sans lui prendre quelque chose. Décembre lui avait emprunté du froid, minuit de l'épouvante, le fer de la rouille, la peste des miasmes, la fleur des parfums. Sa lente désagrégation était un péage, péage du cadavre à la rafale, à la pluie, à la rosée, aux reptiles, aux oiseaux. Toutes les sombres mains de la nuit avaient fouillé ce mort. C'était on ne sait quel étrange habitant, l'habitant de la nuit. Il était dans une plaine et sur une colline, et il n'y était pas. Il était palpable et évanoui. Il était de l'ombre complétant les ténèbres. Après la disparition du jour, dans la vaste obscurité silencieuse, il devenait lugubrement d'accord avec tout. Il augmentait, rien que parce qu'il était là, le deuil de la tempête et le calme des astres. L'inexprimable qui est dans le désert se condensait en lui. Épave d'un destin inconnu, il s'ajoutait toutes les farouches réticences de la nuit. Il y avait dans son mystère une vague réverbération de toutes les énigmes. On sentait autour de lui comme une décroissance de vie allant jusqu'aux profondeurs. Il y avait dans les étendues environnantes une diminution de certitude et de confiance. Le frisson des broussailles et des herbes, une mélancolie désolée, une anxiété où il semblait qu'il y eût de la conscience, appropriait tragiquement tout le paysage à cette figure noire suspendue à cette chaîne. La présence d'un spectre dans un horizon est une aggravation à la solitude. Il était simulacre, ayant sur lui les souffles qui ne s'apaisent pas. Il était l'implacable. Le tremblement éternel le faisait terrible. Il semblait, dans les espaces, un centre, ce qui est effrayant à dire, et quelque chose d'immense s'appuyait sur lui. Qui sait? Peut-être l'équité entrevue et bravée qui est au-delà de notre justice. Il y avait, dans sa durée hors de la tombe, de la vengeance des hommes et de sa vengeance à lui. Il faisait, dans ce crépuscule et dans ce désert, une attestation. Il était la preuve de la matière inquiétante, parce que la matière devant laquelle on tremble est de la ruine d'âme. Pour que la matière morte nous trouble, il faut que l'esprit y ait vécu. Il dénonçait la loi d'en bas à la loi d'en haut. Mis là par l'homme, il attendait Dieu. Au-dessus de lui flottait, avec toutes les torsions indistinctes de la nuée et de la vague, les énormes rêveries de l'ombre. Derrière cette vision, il y avait on ne sait quelle occlusion sinistre. L'illimité bornée par rien, ni par un arbre, ni par un toit, ni par un passant, était autour de ce mort. Quand l'immanence surplombant sur nous, ciel, gouffre, vie, tombeau, éternité, apparaît patente, C'est alors que nous sentons tout inaccessible, tout défendu, tout muré. Quand l'infini s'ouvre, pas de fermeture plus formidable.